Non, on passe à un autre sujet.
Allez,
on passe à un autre sujet. Il est à 18h22, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. On va rejoindre Gauthier Lebret, notre journaliste qui est sur place à l'Assemblée nationale avec l'excellent Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Elisabeth Borne, la Première ministre, vient de parler d'immigration, le fameux projet de loi. Expliquez-nous ce qu'elle a dit, Gauthier. Bonsoir.
Eh bien écoutez, Laurence Elisabeth Borne, elle veut allier humanité et fermeté. C'est du en même temps chimiquement pur. Alors qu'est-ce que c'est plus d'humanité? Eh bien par exemple, vous savez, c'est régulariser les travailleurs sans papier qui travaillent dans des métiers dits en tension. Gérald Darmanin, qui s'est également exprimé à la tribune, a dit que l'immigration avait participé à faire la France. Et en même temps, le gouvernement veut plus de fermeté pour expulser plus rapidement. Gérald Darmanin avait dit qu'il voulait rendre la vie impossible aux personnes sous OQTF. Il vient de dire également qu'il veut retirer plus simplement les titres de séjour aux étrangers qui ne respecteraient pas la République. Mais le problème avec le en même temps sur ces questions migratoires, c'est de trouver une majorité au Parlement pour le gouvernement, puisque vous le savez, le gouvernement n'a pas de majorité absolue. Sauf que la gauche trouve ce texte inhumain et la droite le trouve trop laxiste. C'est notamment ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin en conférence de presse. Le Rassemblement national ne votera pas ce texte, puisque pour Marine Le Pen, ce texte va ouvrir une nouvelle filière d'immigration. En plus, le gouvernement n'a le droit qu'à 1,49,3, hormis les textes budgétaires. Il ne pourra pas l'utiliser à la fois sur la réforme des retraites et sur ce projet de loi asile-immigration. Ça va donc être très compliqué pour le gouvernement de trouver une majorité. Le projet de loi sera débattu pour de bon en janvier prochain.
Merci beaucoup Gauthier Lebret et Charles Baget à l'Assemblée nationale. Louis Dragnel, c'est une régularisation de certains travailleurs sans papier que nous propose le gouvernement, assortie d'une politique de fermeté ou pas?
Alors tout le problème, et ça a été très bien expliqué par Gauthier Lebret, tout le problème en fait réside dans ce concept d'humanité et de fermeté qui, objectivement, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand vous mettez l'humanité, le drame, je ne suis pas inhumain, je ne prône pas l'inhumanité, mais quand vous posez en principe inamovible de l'humanité, la fermeté n'existe plus. Parce qu'en fait, expulser quelqu'un, c'est profondément inhumain. Jamais personne vous dira « j'ai été expulsé par la France, mais avec une humanité incroyable ». Quel gentleman, c'est français, c'est incroyable. Personne ne vous dira jamais ça. Et donc le problème, c'est que cette loi va être la 21e, une de plus, qui globalement ne produira aucun effet malheureusement. Pourquoi? Parce que il y a deux manières de voir la maîtrise de l'immigration. Il y a la question des flux et il y a la question du stock. Les flux, qu'est-ce qu'on fait pour le réduire? Objectivement, rien, puisqu'effectivement, le projet, c'est d'augmenter le nombre de titres de séjour pour des personnes qui occuperaient des métiers dits en tension. Et on vient de vous écouter, vous nous l'avez expliqué très clairement, l'objectif, c'est que ces personnes, à l'issue de leur titre de séjour, puissent rester en France. Donc, en fait, l'objectif, c'est la régularisation et donc la naturalisation. Et ensuite, sur le volet expulsion, tant qu'on ne bouge rien sur le droit d'asile, donc ça veut dire que les déboutés du droit d'asile, on ne peut pas les expulser davantage, eh bien, on n'expulsera pas. Non, moi je vous le dis, très sincèrement, non, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas.
Refus d'asile, ça vaut expulsion.
Mais pas du tout. Aujourd'hui, non.
En tout cas, on parle de la...
Mais parce que vous ne voulez pas vous fâcher avec des pays étrangers.
Terminez votre phrase, je passe la parole ensuite à madame la députée.
Ce que je voulais simplement dire, c'est que globalement, les effet de cette loi, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'immigration. Elisabeth Borne dit, nous, on ne veut pas d'immigration dérégulée et on ne veut pas non plus l'immigration zéro. L'immigration dérégulée, on connaît, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, il y aura beaucoup plus de titres de séjour délivrés. On parle de dégradation de titres de séjour, mais en fait, personne ne sera expulsé. Et dernière chose, les étudiants étrangers. Elisabeth Borne n'en parle pas, mais c'est bien dans le projet. L'objectif qui est fixé, c'est 500 000 étudiants étrangers qui auront des visas en 2027. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 90 000. Et c'est déjà une des premières...
90% en partie, vous savez ça?
Non, c'est un des premiers moyens de contournement d'accès à la nationalité française, ce sont les visas d'étudiants.
Explication très claire. Madame la députée, juste sur la régularisation des travailleurs sans papier, ça concerne combien de personnes et le visa qu'il leur a accordé? Et donc, temporaire ou permanent? Expliquez-nous.
Non, mais la condition sine qua non, c'est de travailler.
Okay.
C'est de travailler.
Mais ça, on sait que c'est les travailleurs.
Métier en tension en premier, parce qu'on a besoin...
Combien de personnes
on a besoin...
Ça concerne.
On parlait tout à l'heure de...
38 000, 20 000, 100 000.
C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui.
Mais,
okay.
Mais on n'a pas... C'est beaucoup plus que 100 000, 100 à 200 000.
Alors, on n'a pas. Moi, je suis pour des plafonds limitatifs. Moi, par contre, moi, personnellement, je suis pour un plafond limitatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
Voilà.
Je vous dis, il suffit de discuter avec les fédérations...
Vous le limitez à quoi? 100 000?
Non, ça, il faut que ça soit dans le débat. Moi, je ne crois pas que nous, on ait raison sur un chiffre. Je pense qu'il faut discuter avec la droite, il faut discuter avec la gauche raisonnable, parce que je pense que sinon, ça va être compliqué. Et là, on peut sortir probablement. Mais je suis pour un plafond, moi, limitatif.
Très bien.
Parce sur que le les visa, ont besoin
temporaire ou permanent. C'est ça qu'on arrive alors, à très, très bien à comprendre.
Temporaire. Temporaire, puisque c'est renouvelable tous les un an, donc c'est temporaire, mm-hmm. de facto. L'autre chose, c'est que
c'est si le métier
la condition
est en
sine qua non, la, renouvelable, à, la condition sine qua non, c'est de travailler. Et au bout de quelques années, et pour répondre pour revenir au débat de tout à l'heure, si les métiers en tension ne sont plus en tension, vous savez, quelqu'un qui a travaillé très longtemps, moi, je, enfin, quiconque est issu de l'immigration le voit, si vous avez travaillé très longtemps dans un pays, vous devenez de fait français.
Non.
Et de,
mais vous n'avez pas un droit à vous installer, à avoir le... Mais non. Mais
vous pouvez, ans,
vous pouvez passer toute votre vie. Il y a plein d'expatriés français qui passent toute leur vie aux États-Unis et ils se sentent français et ils ne se sentent pas américains.
Oui, mais ils se... Mais
bah, pourquoi est-ce qu'il y a... Il y a
cette qui voudront rester travailler en France. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de l'émission avec une
sociologue.
Allez-y. Maître Golnadel, je vous écoute.
Oui, écoutez, d'abord, j'ai du mal à comprendre comment on peut opposer la lutte contre l'immigration et l'humanité. Moi, je trouve ça très humain. D'expulser, par exemple, quelqu'un qui est sous OQTF. Je trouve ça très humain de lutter contre l'immigration parce que c'est une preuve d'humanité à l'égard des Français qui n'en peuvent plus, au niveau ne serait-ce que de l'insécurité. Donc, voilà. Et l'asile... Ben,
non, mais la...
Allez-y.
Les vieux schémas, si vous voulez, de Mme Borne sur l'asile sont, n'ont plus cours. On sait que l'asile... est complètement dévoyé. Le vrai asile, l'asile au plein sens, c'est une personne humaine qui est un opposant dans son pays dictatorial et qui va dans un pays sûr, d'accord, et d'ailleurs en ayant une obligation de réserve. Donc on n'est plus du tout dans la notion d'asile où aujourd'hui la plupart de l'immigration est une immigration économique. Et malheureusement, je suis d'accord avec Louis Dragnel, y compris le chiffre est effrayant. 500 000 étudiants, c'est madame la députée, c'est
mais vous connaissez c'est... les chiffres non au moins non, mais, c'est à moi c'est,
enfin, non mais le projet de 500
les
non, mais,
mon mari
non, mais,
est professeur de droit et je lui ai posé la question
non, mais, alors c'est combien votre chiffre
que, c'est 90% des visas accordés aux étudiants, 90% repartent une fois qu'ils sont diplômés.
D'accord, oui, bah, je vous signale simplement au hasard, comme
non.
ça.
Non,
au hasard, je vous signale.
Alors,
au hasard, c'est tellement dévoyé la notion d'étudiant que je vous signale simplement que la meurtrière de Lola avait le statut d'étudiant. Tout le reste n'est que bruit.
Allez, il est 18h30. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On continue à parler d'immigration puisque le gouvernement a présenté aujourd'hui son projet de loi sur l'immigration. C'est Elisabeth Borne qui en a parlé il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Nous sommes toujours avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, un avocat, maître Gilles-William Golnadel, et nous accueillons Marie Strépier, sociologue. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes... depuis des années en train de travailler sur les questions de l'immigration. Immigrer toi-même, c'est votre livre. Parcours d'une sociologue de l'immigration aux éditions L'Harmattan. On va évoquer avec vous les flux migratoires dans notre pays. Est-ce que notre pays est ou non un pays d'immigration ? Depuis quand date cette immigration ? Quel type d'immigration ? Qu'est-ce qui a changé dans les 20 dernières années ? Avant ça, j'aimerais juste qu'on prenne la mesure de ce qui se passe dans notre pays, des positions qui sont antagonistes pour certains. Celle du président Macron, d'abord, qui dit « La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays. » Et on en a toujours eu besoin pour notre économie. Voilà, ça c'est la vision du président Macron. Et puis, de l'autre côté de l'échiquier politique, il y a Éric Zemmour, qui ce week-end a développé évidemment sa vision de l'immigration. Écoutez ce qu'il disait et on verra où se situe le juste milieu.
Mais la France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde, elle veut également devenir le tiers-monde. Non, monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui.
Voilà pour ces deux visions assez différentes de l'immigration. Madame Trippier, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays ? On est sur quel modèle, là ? On est sur une immigration massive qui s'est accélérée par rapport il y a même 20 ans ou pas ?
Vous voulez qu'on parle seulement des 20 dernières années ?
Non, moi, je vous à non, bout de choisir les talons.
L'immigration en France, c'est très ancienne, mais il faut considérer qu'elle s'appelle l'immigration à partir du moment où on recense les étrangers. Avant, il y a énormément de mouvements de population qu'on appellerait aujourd'hui des migrations intérieures, mais qui, compte tenu des frontières, dès le début de l'industrialisation, il y a eu des Belges, des Polonais, des Allemands, des Italiens, etc. La plus grande constante en termes quantitatifs, ça a été les Italiens. Mm-hmm. C'est les Italiens qui étaient le socle et qui ont accompagné toute cette période-là.
À quel moment ? C'était entre les deux guerres ?
Non, ça commence déjà avant-guerre.
Avant-guerre.
Et puis déjà avant-guerre, il y a de temps en temps, pour des raisons précises, dans les mines par exemple, il y a des Marocains, dans un certain nombre d'endroits. Bon, plus tard après, il y aura effectivement des OS qui viennent du Maghreb, etc. Il y avait déjà des matelots noirs, etc. Mais disons que moi je dis que la France est un pays d'immigration. Il n'y en a pas que d'immigration, mais il y a aussi un pays d'immigration dont ma collègue Dominique Schnapper avait dit « qui s'ignore comme tel ». C'est-à-dire qu'il ne voit pas, qu'il ne veut pas tellement se voir comme un pays d'immigration, à l'instar des États-Unis ou d'autres pays, alors qu'il a une longue histoire.
Ce qu'on essaie, c'est de prendre la mesure des flux migratoires actuels. Parce que vous parlez des Italiens, vous dites que c'est le socle de l'immigration, j'en fais partie. C'est quel volume ? On parle de quoi ? De millions de personnes qui viennent en France ? De milliers d'Italiens qui viennent pour travailler dans le BTP, pour être maçon ?
Il y a eu des centaines de milliers sur une très longue période, c'est presque 100 ans. Il y a eu des arrivées d'Italiens à différents moments. Mais il y avait d'autres populations déjà. Simplement, quand on regarde, c'est un peu le socle le plus continu. Voilà.
Et après, qu'est-ce qu'il y a eu comme type d'immigration ?
Alors après, après la guerre, si vous voulez, l'immigration, elle a eu essentiellement deux ressources, l'économie et la démographie. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu tellement de destruction d'hommes que l'appel essentiel est un appel démographique. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a moins de déficit, je dirais, comme ça. Mais c'est le moment où l'économie va redémarrer et où on va chercher ce que j'appelle la main-d'œuvre à bon marché, c'est-à-dire, puis de la main-d'œuvre tout court, c'est-à-dire, c'est le moment où il y a des femmes qui vont entrer dans le marché du travail, des paysans, enfin des agriculteurs ou des fils d'agriculteurs, et où on va chercher des émigrés, par des offices officiels d'ailleurs, pour démarrer ces fameuses 30 glorieuses. Et là, si vous voulez, il y a un appel...
C'est là qu'on va chercher les immigrés du Maghreb ?
Pas seulement. Il y a encore des immigrés d'Europe, il y a des immigrés du Maghreb, il y a des immigrés d'Afrique noire, il y a des immigrés du Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, il y a déjà l'idée qu'on a besoin de cette main-d'œuvre. Bon, je vais juste dire un mot, comme ça vous le comprendrez. C'était à l'époque de l'illusion du provisoire. C'est-à-dire que tout le monde pensait migration tournante. Il y en a un qui vient, il s'en va, il y a son cousin qui arrive, etc. C'est ce que j'appelle la migration du travail sans le travailleur, quelque part. Mm-hmm. On ne s'occupe pas d'après du travailleur. Donc, même les immigrés avaient cette illusion, les syndicats aussi, les partis politiques aussi, qu'on allait être... le mot allemand, c'était Gastarbeiter, l'hôte invité.
Et donc, ce n'était pas la réalité.
Ça va tourner. Ça a été la réalité, mais dans les pays démocratiques, il n'y a pas de migration de travail sans qu'à un moment ou à un autre, il y ait aussi de la migration de peuplement. Parce que le regroupement familial fait partie de toutes les conventions de la Constitution française. Et on ne peut pas empêcher les gens, éventuellement, d'avoir leur famille. Sauf dans les Émirats. Mmh. On est en train de parler du Qatar. Il n'y a que ces pays du Golfe qui ont réussi à avoir le travail tournant, sans travailleurs.
Et le retour chez eux.
La question de l'intégration, la question de l'insertion n'est pas posée.
Mmh. Alors, Maître Golnad, elle voulait réagir à ce que dit Mme Trépied.
D'abord, je constate que Madame le professeur situe l'immigration, enfin le phénomène migratoire important, à partir de la fin du XIXe siècle. Ça n'invalide donc pas la thèse de ceux qui disent, au rebours des déclarations de M. Macron, que la France n'a pas toujours été un pays d'immigration. Bon. Ensuite, on constate que, si vous voulez, le regard des immigrés sur le pays d'accueil et le regard de la population indigène française a aussi, sur le plan psychologique, terriblement changé. La réalité, elle est là aussi. C'est que, il faut prendre en dimension cette dimension psychologique, c'est que la population d'accueil, pendant très longtemps, se croyait supérieure.
Et la population qui venait avec une sorte de reconnaissance. Et puis avec le travail de sape anticolonialiste et tout ce que vous voulez, finalement, il y a eu un complexe français. On a présenté les Français comme finalement un peuple hostile. Et donc, ça modifiait beaucoup, beaucoup le comportement. Ce qui fait aujourd'hui qu'on a 72%, c'est énorme, madame. 72% des Français qui considèrent l'immigration comme quelque chose de négatif. Ce n'est pas tombé du ciel. Les Français ne sont pas tombés tout d'un coup dans la xénophobie. C'est que la réalité de l'immigration, eh bien, elle a changé pour des raisons, à mon avis, profondément psychologique.
Trépied, votre réponse à ça, c'est une réalité, ce sentiment de...
Oui, enfin, moi, je voudrais juste rappeler, parce que je me suis servi des travaux de Serge Lama, il y a eu 21 lois sur l'immigration depuis 1986. En moyenne, une par tous les ans et demi. Et donc, si vous voulez, on peut pas, donc ça rentre dans le débat public à travers toutes ces discussions, ces propositions de loi, dont en fait, elles... La plupart, ça patine, parce qu'aujourd'hui, le droit des étrangers, il est devenu complètement illisible.
Et la nouvelle loi va le rendre encore moins lisible avec
la nouvelle loi, on parlera si vous voulez précisément, mais c'est presque toujours les mêmes fausses évidences, c'est-à-dire humanité et fermeté. Moi, je peux vous citer tous les discours, il y aura toujours humanité et fermeté. Mais en regardant précisément, la situation des étrangers se précarise. Il y a, après les années 80, on dit 85% des étrangers avaient une carte de séjour de résident de 10 ans. Maintenant, c'est la proportion inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, fabriques de sans-papiers, si vous voulez. Et donc, mon problème, c'est qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on cherche à faire une migration tournante et de la main-d'œuvre dans les secteurs ici ou cela ? Ou est-ce que, quand on fait une immigration, même comme ça, au départ de travail, on vise à ce que ces gens soient accompagnés, intégrés, etc. Ce qui me fait discuter sur la langue française pour des gens à qui on va donner une carte de séjour d'un an, avec une impossibilité de changer de secteur, sans regroupement familial, sans rien du tout. Donc, si vous voulez, il y a une incohérence.
Il n'y a pas de ligne claire.
Non, pour moi, il n'y a pas de ligne claire.
Allez-y, maître.
Non, mais ce qui a énormément changé aussi, si vous voulez, dans la vision de l'immigration, et c'est pour ça que la vision de M. Macron est tyrannique, c'est non seulement le nombre qui continue, et son caractère irrégulier. Moi aussi, je suis un enfant d'immigré, mais mon père... Il est arrivé de manière régulière en France. Il n'a pas forcé les frontières. Il n'était pas clandestin et personne de notre famille était clandestin. Le phénomène nouveau et qui est très mal vécu par la population autochtone, c'est quand les frontières sont forcées. Et c'est normal que, si vous voulez, vous reconnaissez vous-même, madame, que maintenant, la précarité, il y a un phénomène... bien sûr, c'est la précarité, puisque c'est une clandestinité toléré et organisé, mais qui ne peut pas être pris en compte. Donc tout cela change. Et enfin, pardonnez-moi, la nature quand même de l'immigration est tout à fait différente. Et ça n'a rien de disqualifiant. La France est un pays ou était un pays aux racines judéo-chrétiennes. Quand vous aviez des Italiens ou des Polonais qui venaient, c'était avec de beaucoup plus grandes facultés d'intégration que quand vous avez des Soudanais ou des Afghans qui viennent. C'est tout à fait logique et tout à fait normal.
Vous voulez répondre, Madame Trépied ?
Oui, parce que, si vous voulez, moi j'ai enseigné. La création de l'Union européenne aussi a bouleversé les choses, puisqu'elle a créé les étrangers européens et non européens. Quelque part, par exemple, les étudiants qui venaient des anciennes colonies étaient beaucoup plus francophones. Il y avait beaucoup moins de possibilités. Par contre, on avait des étudiants hollandais, etc., qui ne parlaient pas un mot de français. On avait les liens qui avaient été tissés, même la colonisation, on pourra discuter de la colonisation, mais la colonisation a créé ce que Galisso appelait un mixte, c'est-à-dire que ce sont des gens qui... Alors, moi, si vous voulez, ce que je ne trouve pas tout à fait normal... Enfin, je dis que les sans-papiers, c'est un truc qui se... Finalement, ça se fabrique quand on a des gens qui sont non régularisables, non expulsables. Voilà. Et donc, on a un moment, c'est une impasse, c'est pas spécialement l'impasse de Macron, etc. C'est que, à mon avis, simple avis, il faut remettre le droit des étrangers à plat. Parce que il y a eu un empilement, notamment basé sur la suspicion. Et puis après, tout le monde qui court derrière les autres, parce que maintenant c'est politique, alors il faut donner des gages aux uns ou aux autres, notamment aux anti-immigrés, etc. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'est devenu incohérent et illisible.
Louis Dragnel, une question.
Non, mais une remarque un peu par rapport à ce que disait Gilles-William Golnadel. Moi, je vous rejoins sur le côté, il y a une question de masse. Il y a une question de masse par rapport au stock. Aujourd'hui, on est à 3,2 millions de titres de séjour qui sont renouvelés chaque année. Ça fait des années qu'on n'a pas battu de tels records. Et puis, on est à peu près entre 275 et 280 000 premiers titres de séjour qui sont délivrés. Donc là, c'est pour l'immigration légale. Vous parliez tout à l'heure de fabrique de sans-papiers. Et en fait, oui, c'est très juste. En fait, la fabrique de sans-papiers vient de notre système d'immigration légale. Quand Elisabeth Borne, par exemple, dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale, notre objectif, c'est de, par exemple, dégrader des titres de séjour. Qu'est-ce que ça veut dire, dégrader des titres de séjour? Ça veut dire que quelqu'un a un titre de séjour, eh bien, on le retire. Donc, en fait, vous créez des sans-papiers qui, parfois, se sont installés sur le territoire français, ont fondé une famille. Et en fait, on leur reproche rien d'autre que simplement être en situation irrégulière. Mais aujourd'hui, en France, le drame, c'est qu'être en situation irrégulière et ne commettre aucun délit, c'est quasiment être dans la légalité. Et donc, en fait, et du coup, plus personne n'est expulsable. Et vous voyez, moi, j'ai vu une évolution sémantique qui était séduisante, par exemple, de la part de Gérald Darmanin. Quand il explique, nous, notre objectif maintenant, c'est d'expulser en priorité donc les gens qui sont expulsables, mais qui ont commis des crimes et délits très graves. Donc, tout le monde se dit, spontanément, à première vue, on se dit, mais c'est super, on va pouvoir se débarrasser de toutes ces personnes dont on ne veut pas, qui ont commis des crimes et délits. Mais en fait, je pense que moi, le problème doit être pris carrément dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à toutes ces personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont visées par des OQTF, qui parfois n'ont rien fait de mal, mais qui, tout simplement, n'ont pas le droit de rester sur le territoire français, puisqu'ils sont en situation illégale.
Oui, la situation d'illégalité, elle se crée de différentes manières, mais vous l'avez dit déjà, une carte de séjour, quelqu'un qui est régularisé, c'est un an. Bon, après, il y a une forme d'arbitraire. Il n'y a pas, on la retire, on la remet, et en plus, c'est payant. Hein. Mais la plupart des sans-papiers, et notamment dans la proposition qui va être faite dans cette loi, c'est pour des gens qui travaillent déjà, qui payent des impôts, qui payent la sécu, qui sont intégrés. Et si vous voulez, on pourrait leur faciliter la tâche, parce que parfois, souvent, leurs employeurs sont d'accord, comme ça s'est passé, je crois, en 2008, avec la restauration, pour les aider, puisqu'ils sont, ils sont compétents. J'ai lu le texte de, comment il s'appelle, Thierry Marx, qui dit, il faut régulariser les gens qui travaillent avec nous. Mais c'est pas facile. Il faut des CERFA, des machins, etc., aussi bien pour expulser que pour régulariser.
Mais pourquoi, selon vous, le gouvernement n'assume-t-il pas de dire on va régulariser massivement? Parce qu'on le sait bien, ces gens qui vont avoir des titres de séjour spéciaux de 2, 3, 4 ans, en réalité, ne partiront jamais. Et dans 4, 5 ans, ces personnes à qui on donnera un titre de séjour spécial, s'il y a plus de secteur en tension, on sait très bien, on ne les expulsera pas.
Alors, votre réponse, il ne nous reste que quelques minutes. Allez-y, Madame Trépied.
C'est très difficile. Je dirais que pour moi, je vous ai dit, il faut tout remettre à plat et il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut revenir aux années 60 avec une migration tournante, c'est-à-dire des gens dans les foyers, dans des hôtels, dans les trucs Sonacotra, etc., pour que les gens viennent, repartent, pas les mêmes, si possible. Ou bien est-ce qu'on veut avoir une part de l'immigration pour des raisons économique et démographique, qui reste. Et à ce moment-là, il faut se donner les moyens de donner une carte stable, etc. Bon, c'est pareil pour la nationalité. La nationalité, c'est complètement arbitraire. On n'a pas droit à la nationalité. Vous parliez de vous. Moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 5 ans et demi. Mon père et moi, on était apatrides. Hein, et je suis devenue française à 20 ans. Bon. Mais si vous voulez, au moment d'avoir la nationalité, c'est normal de demander qu'on parle le français, qu'on soit bien intégré, etc. Mais pour un système qui doit être justement d'une flexibilité totale, on ne peut pas à la fois demander tout et son contraire.
En tout cas, c'est une discussion passionnante. Immigrer toi-même, c'est votre livre. Je renvoie à votre livre qui est passionnant, Parcours d'une sociologue de l'immigration, aux éditions L'Harmattan, Logique sociale. C'est un vaste sujet, évidemment, qu'on a entamé avec vous et qui mérite de continuer le débat. On va faire prendre une autre direction, si vous le permettez, celui de la Coupe du Monde au Qatar. Tout à fait différent. On va rejoindre notre envoyé spécial Jacques Vendroux, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Jacques. Commence par cette victoire, quelque chose d'assez historique pour le Maroc qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale, c'est bien cela ?
Au tir au but, oui, je parie.
C'est un événement considérable en ce qui concerne le football marocain. Pour la première fois de leur histoire, le Maroc se retrouve qualifié pour un quart de finale de Coupe du Monde de football. Une équipe du Maroc qui a éliminé, tenez-vous bien, l'Espagne. Après 120 minutes de jeu, les deux équipes étaient à égalité, donc 0-0. La traditionnelle séance de tir au but, et les Marocains ont été plus solides que les Espagnols, qui pourtant ont un palmarès incroyable. Dans tous les cas, une équipe de Maroc est en train de rentrer dans l'histoire du grand livre, comme on dit, de la Coupe du Monde de football. Le Maroc est qualifié pour les quarts de finale, et le Maroc pourra jouer éventuellement contre le vainqueur du match de ce soir, entre le Portugal et l'équipe de Suisse.
Alors, mon cher Jacques, vous allez nous donner une nouvelle de la France des Bleus dans 4 jours. Ce sera le match contre l'Angleterre, le quart de finale. Vous avez des nouvelles des Bleus ?
Alors, les Bleus se sont entraînés cet après-midi. Il y avait un absent de marque, mais ne vous inquiétez pas, c'était Mbappé. Il n'a pas participé à l'entraînement. Il a fait ce qu'on appelle un entraînement en salle avec l'autorisation de Didier Deschamps. L'entourage de Didier Deschamps et ses collaborateurs nous ont bien fait savoir à Jean-François Pérez et Cyril de la Morinerie, que ce n'était absolument pas grave. Il avait besoin peut-être un petit peu de récupérer. On en saura évidemment beaucoup plus demain, mais a priori, tout va bien. Et a priori, je ne dis pas qu'on est prêt à 100% pour le match de samedi à 20h contre l'Angleterre, mais en tous les cas, a priori, il n'y a pas de grave blessure, bonne ambiance, journée de repos hier. A priori, tout va bien. Chez les Bleus, Laurence. Voilà ce que je voulais vous dire.
En fait. Et un tout dernier mot, Jacques, à propos de l'état de santé de Pelé. On nous dit qu'il va mieux. On peut croire ces informations ou pas en un mot ?
Oui. Pelé va mieux. Il communique par l'intermédiaire de sa famille en disant qu'il est en train de récupérer. Mais vous savez, par exemple, hier, à l'occasion du match Brésil, du Brésil contre le Japon, il y a eu des banderoles incroyables. Plein d'amitié, plein d'affection de la part des joueurs du Brésil, de la part de Neymar. C'était très émouvant. Mais en tous les cas, a priori, Pelé va un peu mieux. Voilà.
Merci pour ces bonnes nouvelles, mon cher Jacques Vendroux. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1, puisqu'on vit les matchs en direct avec vous tous les soirs. Merci beaucoup, Maître Golnadel, oui. Louis de Ragnel, Marie Stripier. Immigrer toi-même, c'est votre livre, Parcours d'une sociologue de l'immigration.
C'est pas de la socio, ça, c'est une autobiographie.
D'accord. Mais en tout cas, il y a plein de travaux qui portent votre nom et qui sont absolument passionnants sur ce sujet majeur qui nous préoccupe beaucoup. Merci à vous de votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Et puis sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zeleny pour le journal de 19h. Et puis la Coupe du Monde de foot, bien sûr, on en parle sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. On se retrouve demain.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.